Dans 3 jours, le carême. Le carême pour réapprendre chaque année comment être catholique. Comment être catholique ? Comme nous le sommes ce matin ensemble. Ensemble, la majorité des catholiques de notre pays le sont chacun de leur côté, dispersés. On nous dit majoritaire, en fait, on est totalement disséminés. Ensemble, donc, c'est la première condition. Sacramentellement, comme nous le sommes aujourd'hui ce matin à la messe, et puis particulièrement pendant le carême, aussi avec la confession. Et puis, troisième condition, ensemble, sacramentellement et concrètement. Concrètement, en associant à la prière ce que nous appelons l'aumône et le jeûne, c'est-à-dire le partage et la maîtrise de soi. Comment être catholique ? Mais auparavant, en écho à l'évangile que nous venons d'entendre, je vous propose de voir pourquoi. Pourquoi être catholique ? Parce que ces trois paraboles, des guides aveugles, de la paille et la poutre, des bons arbres et des bons fruits, sont d'abord trois raisons de croire à la Trinité Sainte. C'est ça être catholique. Croire en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien d'abord, pour être guidé par l'unique guide, le Christ. Pour nous reconnaître enfants d'un même Père, à égalité les uns les autres. Pour que notre conversion porte du fruit, les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, humilité, douceur, maîtrise de soi. C'est ce que dit la lettre aux Galates. Chaque mois, nous avons ici une réunion de préparation au mariage. Et au mois de février, le mois dernier, c'était la veille de la Saint-Valentin. Et nous avons parlé sexualité, qui n'est pas le sujet sur lequel nous prêtres, nous soyons le plus expérimentés, normalement. Nous sommes là des non-pratiquants qui parlaient à un autre type de non-pratiquants. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui étaient là l'année dernière, de mes homélies de carême sur le sujet. Pas une grande réussite, pour le reconnaître. Où j'avais simplement rappelé d'abord le caractère extrêmement clivant de ce sujet. Le choix incompréhensible, au moins aux yeux du monde, de la part de l'Église de ne pas dissocier union et procréation, et puis surtout de prôner la chasteté, quel que soit l'état de vie. Depuis, j'ai modifié mon approche pour la centrer sur la liberté personnelle, le respect de la liberté intérieure de chacun. Pourquoi être catholique ? Pour respecter la liberté intérieure de chaque personne, sa relation personnelle, secrète, avec le Seigneur. Pourquoi Jésus interdisait-il aux démons de révéler qu'il était le Christ ? Quand on lit l'Évangile, ça revient sans cesse. Alors, il y a toutes sortes de thèses, on parle notamment du secret messianique, une façon de dire, comme ce dit Saint Jean, l'heure n'était pas encore venue. Un peu que de la même façon qu'il dit au jour de la transfiguration à ses disciples, de n'en parler à personne tant qu'il ne serait pas ressuscité des morts. En réalité, le mauvais des démons, les mauvais esprits, en quoi sont-ils mauvais ? C'est parce qu'ils ne respectent pas notre liberté intérieure. Ils nous manipulent. Ils nous font faire ce que, en réalité, nous ne voudrions pas. En jouant sur notre sensibilité, sur notre imagination. Meilleure façon de trouver bon ce qui ne l'est pas. Très séduisant. Séduisant à voir, bon à manger, dit la Genèse. Et s'appliquent aux démons ces trois paraboles. Ce sont des guides aveugles qui sont persuadés de leur supériorité et qui confondent le bien et le mal. Lors de cette réunion avec mes fiancés, animée essentiellement par un couple formé, réfléchi, dévoué, j'ai simplement posé, en commençant à mes fiancés, je leur ai livré 3 sujets de réflexion que je vous livre aujourd'hui parce que ça déborde bien sûr le cadre de la préparation au mariage et même de la sexualité. La première question, c'est comment faire lorsque le désir de l'un ne rencontre pas celui de l'autre ? Et je leur disais ce qu'ils ont connu d'ailleurs, adolescents, ce que les jeunes connaissent, ce que les jeunes appellent aujourd'hui la friend zone. La friend zone, la différence de désir. Ça arrive à tout le monde, c'est une façon simple de dire un phénomène très banal. Quand on flash sur quelqu'un, quand on est subjugué par une personne et que ce n'est pas du tout réciproque. Et bien même quand c'est réciproque, même quand c'est durable, même quand c'est susceptible justement de donner lieu à un foyer, ce n'est pas pour autant identique. Ce n'est pas identique. Et accorder ses désirs, c'est l'enjeu de pérennité d'un couple. Et l'intimité, c'est son lieu le plus sensible, évidemment à cause des différences entre l'homme et la femme. Quand des personnes n'avancent pas au même rythme, comment est-ce qu'on fait ? En famille, on sait, on connaît la réponse, en famille, on se cale sur le plus lent. Mais en couple, en famille, on vit au rythme des plus petits. Et c'est indispensable de s'en souvenir, de le rappeler, pour comprendre l'Église. L'Église n'est pas lente par nature, l'Église n'est pas en retard. L'Église croit, à l'inverse du monde, que les forts sont au service des faibles, que les grands sont au service des petits. Mais en couple, quand les deux, en principe, sont à égalité, comment fait-on ? Les deux font l'effort. L'effort, évidemment, d'en parler, d'en discuter, de se connaître. La deuxième question, deuxième sujet de réflexion, c'est, de façon encore plus brutale, quand les deux ont envie, est-ce que ça suffit ? Et ça s'applique à ces paraboles. Si j'ai envie de suivre un guide aveugle, si j'ai envie de suivre quelqu'un qui est déjà perdu, qu'est-ce qui m'en empêche ? Il y en a tant qu'ils font autour de nous. Il y a tant de personnes qui suivent, des gens qui ne savent même pas où ils vont. Si je peux rendre service, le texte dit à celui qui a une paille dans l'œil, si je veux rendre service, alors que je suis le plus mal placé pour le faire, qu'est-ce qui m'en empêche ? Il y en a tant qu'ils font. Si j'ai des produits qui sont extrêmement mauvais, mais que je trouve des consommateurs assez bêtes pour les acheter, c'est pas la loi du marché ? C'est pas notre liberté ? Eh bien non, la liberté n'est pas une abstraction. La liberté n'est pas une abstraction, et en matière de sexualité, elle n'est pas séparable de la fidélité. C'est-à-dire des engagements qui ont déjà été pris. Si deux personnes ont envie d'avoir une relation sexuelle, qu'est-ce qui empêche qu'elles se fassent plaisir ? Les autres. Les autres sont les promesses déjà prises, les promesses données, les engagements qui sont pris. Notre liberté n'est pas seulement intérieure, elle est également extérieure, sociale. Alors, nous ne sommes pas très clairs sur la place à donner à la sexualité. Non pas parce qu'il s'agit d'une question de vie privée, aujourd'hui ça déborde tellement sur l'espace public, mais parce que dans la tradition de l'Église, il y a deux écoles qui s'affrontent. Pour l'une, les questions de morale conjugale sont essentielles, plus importantes que toutes les questions de justice sociale, parce que le sixième commandement découle directement du cinquième commandement sur le respect de la vie et passe avant le septième commandement sur le respect des biens. Et puis, il y a l'autre école qui dit, il suffit de lire l'Évangile pour voir que l'enseignement de Jésus a davantage trait à la justice sociale qu'à l'intimité des personnes. Et on pourrait d'ailleurs regrouper les catholiques en fonction de ces deux écoles et même se poser la question, de quelle école êtes-vous ? Priorité à la famille ? Ou priorité aux pauvres ? Priorité à la fidélité conjugale ? Ou à la justice sociale ? Les deux sont liés. C'était l'expression du pape François dans une précédente encyclique. Tout est lié. Les deux sont des questions, nous disons aujourd'hui, d'écologie humaine, d'harmonie entre nous, d'harmonie avec la création, avec le Seigneur. Les deux, surtout le sexe et l'argent, ont ceci en commun qu'ils prennent la tête, de façon littérale, c'est-à-dire qu'ils passent tellement souvent en premier, alors que la morale est seconde. C'est la mise en œuvre de la vie dans l'esprit. Ils passent en premier, ils prennent la tête, ils deviennent facilement obsessionnels. Évidemment, à proportion du temps passé, soit devant la télé, soit suivant l'âge, à tchater. Ils peuvent devenir obsessionnels comme ils peuvent être sanctifiants. Ce qui est grave, c'est tout ce qui vient corrompre, troubler, empêcher notre unité.
Il y a une femme qui est venue me voir après de longues années de mariage et de grands enfants,
qui ne supporte plus son mari, mais même physiquement, parce qu'il l'a trompée, non. Non, on va dire déçue, mentie, une histoire très banale, qui fait qu'elle a perdu confiance, estime pour lui, au point que physiquement elle ne le supporte plus et ne peuvent s'étonner que ceux qui ignorent l'unité de la personne. L'unité âme, corps, esprit. Et c'est la troisième question, troisième sujet de réflexion que j'ai livré à mes fiancés. Je leur ai demandé, à votre avis, combien de temps est-il possible de rester avec une personne en qui on n'a plus confiance, qu'on n'estime plus, qu'on n'admire plus? On va dire toute la vie. Il n'est pas sûr que ce soit ça la vraie fidélité. À l'inverse, c'est sûrement pas un signe de maturité de s'en aller à la première contrariété.
Mais devoir rester avec quelqu'un qu'on n'estime pas, c'est pas seulement dans la vie amoureuse, c'est pas seulement en couple. Tant de personnes me le disent en permanence, ne serait-ce qu'en travail, le nombre d'heures qu'on passe dans la journée au travail, sans pouvoir le supporter. À ces trois questions, trois sujets de réflexion, comment faire quand le désir de l'un ne rencontre pas celui de l'autre? Quand les deux ont envie, est-ce que ça suffit? Et combien de temps rester alors qu'on est fâché? Je peux répondre comme prêtre, consacré, marié à Jésus et à l'Église. D'abord, je ne vais pas prier quand j'en ai envie, mais je vais prier parce qu'il est là, parce qu'il est toujours là. Ensuite, je sais que je ne le suis fidèle, je ne suis fidèle au Christ et à l'Église qu'en respectant les autres. Et enfin, mon adoration, et c'est le problème de l'adoration, elle ne peut que grandir. Parce que c'est ça la réalité de la connaissance. Plus je le connais, plus je l'aime.
Un paroissien m'a donné, il y a quelques semaines, un petit livre qui s'intitule « Selon saint Marc ». C'est un romancier italien, Sandro Veronesi. C'est édité chez Grasset, je vous le recommande. C'est très tonique, c'est rafraîchissant. C'est une relecture de l'évangile de saint Marc où il le relit comme un film d'action. Il dit, c'est destiné à des Romains, aux Romains de l'époque, et il fallait faire bref, il fallait être rapide, et il insiste essentiellement sur l'action. C'est vrai de Saint-Marc, mais néanmoins est vrai également de Saint-Luc, que nous lisons en ce moment, ce que dit Véronèse,
qui dit que l'Évangile, c'est un hymne à l'inspiration subite, et même, dit-il, à l'improvisation. Jésus, en permanence, suit son inspiration. Et c'est normal, il est la totalité du Saint-Esprit. Et lorsqu'il dit à ses disciples, lorsqu'il nous dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit Saint vous le dira le moment venu. » Il décrit très exactement ce qu'il vit lui-même.
Et Veronesi prend un exemple très concret, il dit, « C'est comme Platini, le joueur de foot. » Platini, lorsqu'on lui demandait comment il faisait pour que le gardien de but ne sache pas comment il allait tirer son coup franc,
il répondait « En ne le sachant pas moi-même. » Encore faut-il savoir ce que cela suppose de travail et d'entraînement. On ne peut suivre son inspiration que si on s'y est longuement préparé. Je vous invite à reprendre ces trois questions et à voir comment vous vous y êtes préparé sur les désirs. Quelle patience, sur les choix. Quelle cohérence. Sur les difficultés. Quelle espérance. Vous pouvez les reprendre à la lumière de ces trois paraboles. Guidés par le Christ, enfants d'un même Père, renouvelés par la vie dans l'Esprit. C'est comme ça que nous rentrerons avec confiance dans le carême. Pourquoi être catholique ? Pour que nos désirs soient vraiment inspirés.